Bonjour Immaculée, vous êtes la toute première aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Bonjour Jean-Gilbert, bonjour Ozanie, bonjour Marie-André, bonjour Farley. Alors j'espère que vous allez bien en cette journée du mercredi 11 août, ou comme on dit au Québec, 11 à août. Voilà. Journée pluvieuse aujourd'hui. Il y a eu de bons orages durant la nuit, durant la soirée, et ce matin il pleut encore. Bonjour Lucie, soyez bénie. Bienvenue parmi nous. Vous avez une bonne dizaine de minutes pour aller vous chercher un café, un thé, une bouteille d'eau, un jus d'orange ou autre. On continue aujourd'hui notre étude sur les différents symboles que la Bible nous donne concernant la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on parle d'une encre. Bonjour, frère Juan Alberto, que Dieu vous bénisse. Bienvenue parmi nous. Merci Marie-André, merci Farley. Donc, ne passez pas à côté de l'occasion de vous saluer. Je n'ai pas vérifié aujourd'hui s'il y avait l'anniversaire de quelqu'un. Bonjour la sœur Susanna. Bonjour pasteur David. Bonjour à mon père, à ma mère. So, pasteur David, a rainy day today. Well, in Montreal it is. I think that most of Quebec will be under rain also today. So, how's the weather in your part of the country? Gracias, hermana Susana. Bonjour Natacha, que Dieu te bénisse. In Montreal, it is really hot too, humid, hot. We will be around 40 degrees with the humidity factor during the afternoon, but it's raining for now. And they say that lightning storms could be heading our way during the afternoon. Bonjour Guy, que Dieu te bénisse. Bienvenue parmi nous. avoir pas mal de pluie aujourd'hui dans les prochains jours, mais j'espère que ça permettra éventuellement de rafraîchir la température extérieure. Eh bien, salutations à la France, à la frangine. C'est la française et la frangine, donc la frangine française. Voilà. J'ai la langue qui fourche ce matin. Bonjour Denise, bonjour Gérard. Yesterday evening there was quite a nice storm, lightning storm yesterday afternoon, evening, around 9:30, 10 o'clock, something like that. Bonjour Bernadette, que Dieu te bénisse. Bonjour Thérèse, sois bénie. Bonjour Denise. Je me rappelle si j'ai salué Gérard et Denise. Donc je salue Gérard et Denise. Et de surcroît cela, je salue aussi Denise, cette fois-ci de Laval. Alors ce matin, on a 7 ou 8 termes à développer ensemble. Et l'image qu'on étudie aujourd'hui, c'est l'encre. Vous avez encore quelques minutes pour vous saluer avant que nous ne débutions aujourd'hui. Je viens de voir Guy. Bonjour Guy. Est-ce que je t'avais salué plus tôt? Je sais plus. Je regarde un peu plus haut. Ah ben oui, je t'avais salué un peu plus tôt. Mais je te resalue, Guy. Que Dieu te bénisse. Bonjour à la sœur Sylvia. Good morning, Sylvia. Bonjour à Sylvie. Content de vous avoir avec nous, Sylvie. Soyez bénie. Donc le déménagement arrive à grands pas. J'espère que les choses se passent bien dans votre cas. Bonjour Rachel. Bonjour aux sœurs qui se connectent avec toi, la sœur Ocilia, la sœur Mona, la sœur Chantal. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais tu les salues. Deux semaines, ça arrive vite, ça arrive vite. Et je sais combien c'est demandant un déménagement, donc je prie que le Seigneur vous assiste dans tout cela, Sylvie. Bonjour la belle-mère, bienvenue ce matin. J'espère que vous allez bien. Bonjour à la ou aux belles-sœurs qui seraient avec vous ce matin. Bonjour Jude. Bonjour Caridad, que Dieu vous bénisse. Content que vous soyez avec nous ce matin. Alors on va débuter, on va prier pour remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Merci Seigneur pour cette autre occasion que tu nous donnes d'examiner ta parole, d'examiner les Écritures et d'être assurément nourri, abreuvé. Par elle. On te demande, Seigneur, de répandre ta grâce sur nous, d'ouvrir notre entendement, d'ouvrir nos pensées, et de faire même au-delà, Seigneur, de ce qui a été pensé et planifié ce matin, de ce qui aurait pu être mis sur papier ce matin, que tu parles à nos cœurs, que tu fasses tomber, Seigneur, les remparts qui nous garderaient loin de toi, que tu fasses tomber, Seigneur, les écailles de nos yeux qui nous empêcheraient de t'admirer, de te contempler et de regarder, Seigneur, à la subtilité, à la profondeur et à la beauté, Seigneur, de ta parole. Alors, bénis ma sœur ce matin, bénis mon frère ce matin, quand toute chose, que toute la gloire te revienne à toi, strictement qu'à toi. Nous t'avons prié dans ton précieux et merveilleux nom, Jésus. Amen. Alors, encore une fois, bienvenue parmi nous. En ce mercredi 11 août 2021, comme vous savez, ce mois-ci, on étudie différents symboles que la Bible nous donne au sujet de la parole de Dieu. Et ce matin, on étudie l'encre. En français, il y a un homonyme pour encre. Donc, il y a encre, A-N-C-R-E, et il y a encre, E-N-C-R-E. Donc, nous, on étudie encre, A-N-C-R-E, bien entendu, l'encre d'un bateau et non pas l'encre d'un stylo. Donc, c'est ce que nous étudions ce matin. Il y a un verset simplement où on fait l'analogie de la parole de Dieu concernant une encre. Et je vous invite à ouvrir avec moi dans Hébreux au chapitre 6. Et on va lire du verset 17 au verset 19. Hébreux 6, du verset 17 à 19. Ce n'est simplement que dans le verset 19 qu'on utilise le mot « encre », mais pour bien saisir comment on peut faire le lien entre la parole de Dieu et le fait que ce soit présenté comme une encre. Donc, on doit lire à partir du verset 17. Pour ceux qui prennent des notes, le terme « encre », c'est le terme « agkira », « agkira » en grec, bien entendu, « agé ». K-Y-R-A, je répète, encre, A-N-C-R-E, bien entendu. Le terme grec agkira, A-G-K-Y-R-A. Et c'est en grec, comme je l'ai dit. Donc, dans Hébreux, au chapitre 6, le verset 17, la Bible nous dit, « C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. » Je répète l'ensemble des trois versets. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Alors que Dieu bénisse sa parole aujourd'hui. En fait, le lien que nous pouvons faire entre une ancre et la parole de Dieu, c'est qu'ici on nous dit que cette ancre est liée à l'espérance. Donc, il y a le terme « espérance » qu'on va étudier tout à l'heure, et il y a le terme aussi « serment ». Dieu est intervenu par rapport au fils de la promesse, il est intervenu par un serment. Un serment, le terme grec, c'est horkos, H-O-R-K-O-S, H-O-R-K-O-S, qui nous parle d'un vœu, d'un pacte, d'une chose promise en prêtant allégeance. Donc, d'une promesse qu'on fait en prêtant allégeance à cette dite promesse. Ce qui est intéressant pour toi et pour moi, c'est qu'on nous dit que ce serment est revêtu d'immutabilité. Ça veut dire qu'il est immuable, qu'il ne peut pas être transformé, qu'il ne peut pas être changé. Pourquoi? Parce que ce serment, c'est la parole même de Dieu qui est immuable en tout temps, en tout lieu, en toute époque. Donc pour nous, ce qui est intéressant, c'est que sa parole proclame ce qu'il a immuablement décidé. Le pacte à travers lequel Dieu est lié à l'homme est le pacte qui lie l'homme à Dieu. Les promesses que Dieu fait à ses enfants, les promesses de secours, les promesses de provision, les promesses de salut qu'il fait à notre égard sont immuables. Et voilà pourquoi aujourd'hui on peut parler d'une ancre immuable, d'une ancre qui est solide, qui est sûre, et on va parler tout à l'heure de cette question de sûreté et de solidité, qui fait que nous pouvons mettre notre confiance dans la parole de Dieu parce qu'elle est immuable. Dieu ne changera pas d'idée. Dieu n'est pas du genre, je me lève ce matin, j'ai une opinion, et demain matin, je passe et j'ai une idée qui a changé, et 3 jours après, je reviens au point initial et je fluctue entre différents points de vue, différentes décisions, différentes pensées. Non, la pensée de Dieu est unique, la pensée de Dieu est éternelle, la pensée de Dieu est immuable dans sa portée. Deuxième terme, on nous dit qu'elle est une espérance qui nous a été proposée. Espérance, c'est le terme elpis, E-L-P-I-S, elpis, espérance. Et ici, quand on parle d'espérance, on parle d'une chose qui est dûment promise et attendue. Une chose qui est dûment promise et attendue. On ne peut pas avoir d'espérance en quelque chose qui ne nous a pas été promis. On ne peut pas mettre notre espérance ou avoir une espérance concernant une chose qu'on ne connaît pas. Une espérance est toujours, sinon c'est un souhait simplement. Mais là, on parle vraiment d'une espérance. Ça veut donc dire que nous y mettons notre confiance, nous y mettons notre assurance. Pourquoi? Parce que nous savons de qui nous tenons cette espérance et de qui nous tenons cette promesse. Sa parole est donc véridique et certaine, et par conséquent, elle nous donne espérance. C'est ce que le prophète Ésaïe, si je ne m'abuse, nous disait en disant qu'il nous donne un futur de l'espoir et de l'espérance. L'espérance est donc de croire en une chose qui nous a été promise. Si elle nous a été promise et que nous savons qu'elle nous a été promise, c'est parce qu'à un moment donné, elle nous a été transmise par quelqu'un, par quelque chose, par un moyen quelconque, et ce moyen est effectivement la parole de Dieu. La parole de Dieu renferme les promesses de Dieu à notre égard. La parole de Dieu renferme les pensées de Dieu à notre égard, et celle-ci nous apporte espérance parce que nous savons que sa parole est véridique et certaine. Il y a quelques semaines, on parlait de la résurrection des morts et on disait que parce que Jésus est ressuscité des morts, la parole nous dit que nous pouvons donc avoir confiance en cette promesse, sachant que Christ est ressuscité des morts. Si Christ n'était pas ressuscité des morts, notre espérance, notre foi que nous plaçons en la parole de Dieu serait futile parce que n'ayant pas rempli cette promesse de mourir et de ressusciter, on pourrait donc croire que toutes les autres promesses sont aussi rendues caduques. Mais parce que Christ est effectivement mort, parce qu'il est ressuscité, nous pouvons avoir confiance en cette parole et en chacune des promesses, en chacune des prophéties, en chacune des bénédictions dont il a fait le serment de nous combler. Là, on tombe dans le terme maintenant « ancre ». Ancre, c'est le terme, comme j'ai dit tout à l'heure, « agkira ». Agkira, A-G-K-Y-R-A. L'ancre dans son objet, dans son fonctionnement, c'est ce qui permet de rester en place. Lorsqu'un bateau arrive au port, effectivement, on attache le bateau à des pieux sur le quai qui l'empêchent de vaciller. Mais de surcroît à cela, le bateau va aussi larguer l'ancre. Lorsque certains pêcheurs vont en mer et qu'ils veulent s'assurer de ne pas être ballottés par les flots et de ne pas se déplacer, ils vont jeter l'ancre dans la mer. Donc, cette ancre permet de rester sur place. À titre d'ancre, la parole de Dieu nous accroche à lui. Je me rappelais lorsque je méditais pour le passage hier soir et ce matin, je me rappelais ce vieux hymne qu'on avait l'habitude de chanter au début de notre conversion qui parlait de l'ancre solide. Mon ancre croche le roc solide. Cette ancre qui vient s'établir, s'accrocher, s'agglutiner au roc solide et qui permet que ma barque, mon bateau, ne soit plus ballotté. Donc, sa parole nous accroche à Dieu. Nonobstant le fait que la parole est Dieu lui-même, mais cette connaissance de la parole, cette méditation de la parole, le fait que nous consommions, que nous étudions, que nous soyons accrochés à la parole de Dieu, cela nous permet par conséquent de nous accrocher à lui. Donc cette parole nous accroche à lui. En tant qu'ancre, cette parole nous évite aussi la dérive. Si nous n'étions pas crochés à l'ancre ou crochés au rocher solide à travers l'ancre que représente sa parole, nous pourrions effectivement être non seulement ballottés par les flots de la vie, mais aussi dérivés loin de Dieu. Donc, cette ancre nous permet d'éviter la dérive. Le fait de connaître, d'étudier, de recevoir la parole de Dieu, d'être enseigné par elle, nous permet d'éviter de dériver loin de notre Seigneur et loin de la volonté et de la pensée de Dieu. On pourrait très facilement, si nous n'étions pas plongés dans la parole de Dieu, non seulement avoir des erreurs théologiques par mégarde et par méconnaissance, par ignorance, mais de surcroît à cela, aussi combiner nos propres pensées à la pensée de Dieu, combiner la sagesse de ce monde ou la prétendue sagesse de ce monde à la pensée de Dieu, combiner notre propre volonté à la pensée de Dieu. Donc, pour éviter la dérive, encore là, la parole de Dieu nous sert comme une ancre. Et enfin, la parole de Dieu comme une ancre nous apporte aussi stabilité. Même si les flots mugissent, le fait que l'ancre est larguée, le fait que l'ancre est accrochée au fond de la mer ou sur un rocher ou sur un sol pierreux, ça nous permet que malgré les vagues, que celles-ci soient atténuées. Lorsque nous traversons des tempêtes de notre vie et que nous voulons calmer cette tempête, notre refuge le plus sûr est le moyen de garder stabilité dans notre vie est effectivement d'augmenter notre consommation de la parole de Dieu. Je vous disais dernièrement, je vous relatais l'expérience que j'avais vécue à l'époque où mon beau-père était encore parmi nous et qu'il était malade, et je savais que les prochains mois seraient difficiles, qu'il serait demandant. Et au lieu de couper sur le sommeil, au lieu de couper peut-être, ou au lieu de couper en fait sur mon temps avec Dieu, je coupais sur le sommeil, je coupais sur les autres activités pour avoir plus de temps dans la parole de Dieu, dans la prière, dans le jeûne, d'avoir plus de temps avec le Seigneur, sachant que les prochaines semaines et les prochains mois serait demandant. Je savais que ce mois d'août serait beaucoup plus demandant pour moi à cause de la charge d'activité auxquelles je ferais face. Donc, il y a des choses que j'ai coupées et j'ai augmenté mon temps personnel avec le Seigneur. Je suis dans une période de jeûne actuellement, mais j'ai prévu cette période de jeûne parce que, et j'ai initié cette période de jeûne parce que je savais que ce mois-ci serait demandant. Donc, pour apporter stabilité à mon âme, mais plus que simplement à mon âme, et on va le voir tout à l'heure, j'ai eu cette sage décision, j'ai eu cette sage inspiration de prendre davantage de temps avec le Seigneur. Donc, sa parole nous apporte non seulement le fait d'être accroché à lui. Cette parole nous évite de dériver, mais de surcroît à cela, le fait de larguer une ancre permet à un bateau d'obtenir davantage de stabilité. Ça ne veut pas dire que ça enlève la tempête. Ça ne veut pas dire que les vagues ne viennent pas frapper contre le bateau, mais ça veut dire que malgré les vagues, j'ai plus de stabilité que si mon ancre était crochée, était gardée à l'intérieur de la coque du bateau. Donc, pour toi et pour moi, mon frère, sachons ce qu'apporte cette parole de Dieu qui est ancre pour notre vie. On nous dit au verset 19 que cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, comme une ancre de l'âme. Donc, une ancre pour notre âme. Le terme âme, on l'a étudié hier, le terme psyché, donc P-S-Y-C-H-E, P-S-Y-C-H-E, qui nous parle de ce lieu où se trouvent nos émotions, nos désirs, nos passions. Donc, l'ancre que représente la parole de Dieu, elle nous dit elle-même qu'elle est une ancre pour nos émotions, pour nos désirs, pour nos passions. Elle amène stabilité à nos émotions. Vous savez, lorsque nous sommes en proie à l'effroi, lorsque nos émotions sont ballottées à droite et à gauche, savoir que cette parole est immuable, savoir que la parole de Dieu est un sage refuge et un sûr refuge. Ça nous permet d'aller nous accrocher à quelque chose qui est au-delà des fluctuations de temps, au-delà des fluctuations d'émotions, au-delà des fluctuations de mode, de façon de faire et de penser. La parole de Dieu étant si stable, si immuable, lorsque mes émotions sont en proie à la tempête et que je me réfugie plutôt dans la parole de Dieu, j'y trouve effectivement une stabilité pour mes émotions. Mais je rajouterais un autre terme. C'est non seulement une stabilité pour nos émotions, mais une stabilité malgré nos émotions. En dépit de ce que nous pouvons ressentir, en dépit de ce que nous pouvons expérimenter, nous pouvons obtenir la stabilité pour notre âme avec la parole de Dieu. Voilà pourquoi David disait à son âme, « Mon âme, retourne à ton repos. » Il obligeait, il donnait l'ordre à son âme qui était troublée. Je veux dire, s'il lui dit de retourner à son repos, c'est que son âme n'est pas en repos. Donc, David dit à sa propre âme, « Mon âme, retourne à ton repos. » Car l'Éternel t'a fait du bien. Rappelle-toi ce que Dieu t'a fait, Rappelle-toi ce que Dieu a fait à ton égard. Rappelle-toi les promesses que Dieu a prononcées à ton égard. Rappelle-toi ce qu'il a dit qu'il ferait pour toi. Et en raison de ce qu'il a dit, de ce qu'il a promis, de ce que sa parole nous rappelle qu'il a fait, alors en raison de tout cela, mon âme retourne à ton repos. David savait que la parole de Dieu était source effectivement de réconfort pour son âme et était la raison pour laquelle son âme devait retourner à un point de calme et de stabilité. Alors pour nous, c'est la même méthode. Pour nous, c'est la même recette. Lorsque notre âme se trouble, nous pouvons lui dire « retourne à ton repos » parce que même si tu ne le saisis pas, même si tu ne le sens pas, je te dis mon âme, Dieu est bon. Et Dieu te fera du bien, et Dieu prendra soin de toi, et Dieu veille sur toi. Donc, à ce moment-là, c'est de placer notre compréhension, notre foi, notre pensée, non plus dans ce que je peux ressentir, non plus dans ce que je peux expérimenter à l'intérieur de mon être en tant qu'humain, mais de placer cette confiance sur quelque chose qui ne fluctue pas comme des émotions, sur quelque chose qui n'est pas sujette au changement de mode ou de saison, sur quelque chose qui est stable, comme la parole de Dieu, qui ne change pas d'éternité en éternité. Au même titre où il n'y a pas l'ombre de changement en Dieu, puisque la parole est Dieu, la Bible nous le dit dans Jean 1:1, au commencement était la parole, et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, puisque cette parole est Dieu et puisque Dieu ne change pas, qu'il n'y a pas même l'ombre de changement chez lui, alors ça, dans sa parole, il n'y a pas non plus l'ombre de changement. Et je peux donc y accrocher ma confiance et dire à mes émotions, dire à mon être intérieur, « Calme-toi, mon vieux, parce que l'Éternel est encore là, l'Éternel règne encore, et il veille sur toi. » Une encre sûre, une encre solide. Sûre, c'est le terme asphaltes, A-S-P-H-A-L-T-E-S. Sûre, asphaltes, A-S-P-H-A-L-T-E-S. Et quand on parle de sûre, asphaltes, on parle de quelque chose qui est certain, quelque chose qui est vrai, quelque chose qui est avéré et quelque chose qui est confirmé. Et je fais exprès de mettre ces différents synonymes parce qu'il y a quand même des connotations un peu différentes de l'un à l'autre. Donc, quelque chose qui est certain, ça veut dire que on sait que l'on sait que l'on sait que l'on sait que cette chose-là est vraie. Quelque chose qui est vrai et avéré. Donc, non seulement c'est vrai dans ce que ça dit, mais ça a été confirmé, ça a été prouvé. Le temps a prouvé que cette parole est effectivement vérité, que cette parole est effectivement immuable. Donc, cette encre sûre, certain, vrai, avéré, confirmé, l'encre qu'est la parole de Dieu est éprouvé et digne de confiance. Tu dois rappeler à ton intellect, tu dois rappeler à ta réflexion humaine, tu dois rappeler à ton âme, à ta pensée humaine, que la parole de Dieu est immuable. Voilà pourquoi lorsque je passe par des situations plus compliquées, je me réfugie dans la parole de Dieu, sachant que celle-ci est digne de toute confiance. Celle-ci est vraie et se confirme toujours comme véridique, peu importe le temps dans laquelle cette parole, dans lequel cette parole est lue, peu importe l'époque à laquelle nous nous référons quant à la parole de Dieu, cette parole ne change pas, cette parole était vérité hier, elle est vérité aujourd'hui, elle sera vérité demain, et elle sera l'unique et la seule vérité pour l'ensemble de l'éternité. Donc, cette parole est une encre dans laquelle je peux mettre ma confiance parce qu'elle a été éprouvée. Elle est passée à travers des siècles. Elle est passée à travers des situations difficiles. Elle a été le soutien de milliers et de milliers et de milliers de frères et de sœurs dans des périodes difficiles. Elle a été le soutien que des générations de chrétiens avant nous ont eu comme rempart, comme crochet sur le roc solide, comme élément de stabilité dans leur vie qui leur a permis de passer à travers des moments difficiles. Lorsqu'on pense à Hébreux 11 et qu'on voit les différents serviteurs de Dieu qui sont mentionnés, mais lorsqu'on parle vers la fin du chapitre de ces hommes, de ces femmes qui ont vu leurs proches être exécutés, qui ont vu leurs proches mourir, qui eux-mêmes ont souffert la mort, et on nous dit qu'ils ont refusé une délivrance, sachant la promesse qui leur avait été faite. Cette promesse, c'était l'ancre qui leur permettait, dans des moments difficiles, face à la mort, face à une exécution imminente, qui leur permettait de rester fidèles à Dieu et confiants pour l'avenir, en dépit de la mort qui s'en venait et qui était imminente. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que cette parole-là n'était pas vaine, que cette parole-là ne changeait pas, et ils savaient les promesses que Dieu leur avait faites. Je vous ai parlé il y a quelques semaines de ces frères qui ont été exécutés il y a quelques années par Daesh ou par Al-Qaïda ou un groupe similaire. C'était dans le nord de la Libye, sur la plage, et on se rappelle ces images atroces d'une cinquantaine de frères qui sont là en combinaison de prisonniers orange. Et ces frères vont être décapités, mais avant qu'ils ne soient décapités, ils se mettent à entonner le chant « Grâce infinie ». Ils étaient capables, face à l'adversité et face à la menace de mort, de chanter grâce infinie, parce qu'ils savaient que la promesse de grâce qui leur avait été faite était immuable. Ils avaient mis leur confiance dans cette grâce, et ils savaient que même s'ils s'apprêtaient à mourir dans les secondes qui venaient devant eux, ils avaient mis leur confiance dans quelque chose qui était plus sûr, même au-delà de cette vie physique, d'une chose qui était ferme, qui était avérée, qui était véridique jusque dans l'éternité. Et la promesse qui leur avait été faite, ça leur donnait l'espérance, qui en dépit du couteau qui les menaçait, en dépit du meurtrier qui était derrière chacun de ces chrétiens, ils pouvaient chanter grâce infinie, sachant qu'ils avaient été aveugles, que maintenant ils voyaient, ils étaient perdus. Et maintenant, ils étaient trouvés. Et ils savaient, dans l'instant même où la mort va me saisir, mon Seigneur va me prendre par la main et va me faire traverser le Jourdain. Ces hommes avaient cette espérance qui ne vient que lorsque nous avons mis notre confiance dans cette parole immuable de Dieu. Donc, une ancre sûre, asphaltes, une ancre solide, bebaios, B-E-B-A, IOS, Bebaios, B-E-B-A-I-O-S, une ancre solide. Et quand on parle ici de solide, on parle de quelque chose qui est stable, quelque chose qui est dur, quelque chose qui est consistant, quelque chose qui est ferme. Donc, une ancre qui ne fluctue pas. Vous savez, si vous êtes un grand paquebot et vous avez donc une ancre en conséquence avec la grosseur du bateau que vous avez avec vous. Mais cette ancre-là ne fluctue pas qu'il fasse beau ou qu'il fasse moins beau, qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il grêle. Cette ancre-là reste la même dans sa portée, dans sa capacité, dans sa constitution. La parole de Dieu est une ancre solide dans le fait qu'elle ne fluctue pas. Si la parole de Dieu fluctuait, mais ça voudrait dire que ce qui a été proclamé pour une certaine époque n'est plus valide pour aujourd'hui. Ce qui était condamné à une certaine époque ne serait plus condamné aujourd'hui. Ou ce qui était béni à une certaine époque ne serait plus béni aujourd'hui. Et là, on pourrait se tourner vers Dieu en disant « c'est injuste ». parce que certains frères au cours de l'histoire l'ont eu plus facile que nous, parce que certains ont eu moins à payer que nous, parce que certains, il leur a été exigé une conduite qui était plus facile que nous. Donc on pourrait se tourner vers Dieu avec une question d'injustice, avec une question d'acceptation de quelqu'un, avec une question de parti pris pour certaines générations ou pour certaines époques. La parole de Dieu, elle est immuable, elle est solide, elle ne fluctue pas. Ce qu'elle a proclamé était la vérité avant que l'homme n'existe. Mais pendant toute l'histoire de l'humanité, cette vérité ne fluctue pas et elle sera identique pour le restant de l'éternité. D'éternité en éternité, cette parole est immuable et reste la même. Alors on ne peut pas dire que cette parole change. L'homme veut faire changer cette parole. L'homme se lève aujourd'hui en disant, non, non, mais vous avez mal compris, vous avez mal saisi, Dieu est amour, donc il pardonne ceci, il pardonne cela, puisque maintenant nous sommes sous la grâce, donc ces choses-là qu'il condamnait autrefois, maintenant il les accepte et il pardonne mon péché parce qu'il m'aime, alors je peux continuer à faire ce que je veux. Non, c'est pas du tout la chose, c'est tordre la parole de Dieu. Comme on l'a vu ces derniers jours concernant ces faux prophètes qui enseignent des faussetés et qui déclarent des faussetés et qui tordent la parole de Dieu. La parole de Dieu reste la même d'éternité en éternité. Ce qui était péché au premier chapitre, premier livre, premier verset de la parole de Dieu est encore condamné et péché au dernier verset de l'Apocalypse, ce qui était péché avant même que l'homme ne soit créé est encore péché aujourd'hui et sera péché pour le restant de l'éternité. Ce que Dieu approuve, il l'a toujours approuvé. Ce qu'il condamne, il l'a toujours condamné. Ce qu'il approuve, il l'approuvera toujours. Et ce qu'il a condamné et qu'il condamne, il le condamnera encore toujours. La parole de Dieu, on peut s'y réfugier comme étant ce qui dure d'éternité en éternité. On nous dit, et c'est sur cela qu'on va conclure ce matin, elle est une espérance, une encre, une espérance qui pénètre au-delà du voile. Une encre qui nous permet de pénétrer au-delà du voile. La parole de Dieu élimine la séparation entre Dieu et le pécheur repenti. Cette parole de Dieu permet au pécheur de se repentir et d'entrer dans le lieu très saint. Lorsqu'on parle du voile dans le Nouveau Testament et particulièrement dans le livre d'Hébreux, on fait référence à ce voile qui séparait le temple ou l'entrée du temple avec le lieu saint, puis par la suite entre le lieu saint et le lieu très saint. Il y avait des voilures à chacun de ces endroits qui faisaient en sorte que simplement un groupe particulier pouvait rentrer dans le lieu saint, et de surcroît simplement un homme une fois par année, le souverain sacrificateur, pouvait rentrer dans le lieu très saint. Mais lorsque le voile, la parole de Dieu, vient à séparer le voile, la Bible nous dit que Jésus était cette parole qui a été faite chair. Et Jésus, lorsqu'il est mort à la croix, on nous dit que le voile du temple s'est déchiré. À travers cette encre qu'est la parole de Dieu, à travers cette encre qu'est Jésus, nous avons accès à la présence de Dieu. Nous qui sommes pécheurs repentis, c'est à travers la parole de Dieu qu'on apprend le sacrifice de Jésus à la croix, qu'on apprend comment Dieu nous a aimés et qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque qui croirait en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est à travers cette parole que nous pouvons nous approcher de Dieu, mais c'est aussi à travers cette parole que nous avons accès au lieu très saint, dans ce lieu, ou ce lieu dans lequel la toute-puissance de Dieu et l'intime présence de Dieu étaient révélées à l'homme. Imaginez un peu, simplement une fois par année, le souverain sacrificateur avait le droit de rentrer dans le lieu très saint, là où la présence de Dieu allait être exposée, là où la présence de Dieu et la puissance de Dieu descendaient. Pour toi et moi, aujourd'hui, à travers la parole de Dieu, nous avons accès au-delà du voile. La parole de Dieu nous permet d'accéder à la présence, à la toute présence et à la toute puissance de Dieu. Alors, plus je veux connaître, expérimenter intimité avec le Seigneur, plus je veux connaître et expérimenter la puissance de Dieu, plus je devrais me nourrir, plus je devrais être accroché à cette ancre, relié à cette ancre qui amène stabilité dans ma vie. Mon frère, je ne sais pas si tu passes par une tempête aujourd'hui. Ma sœur, je ne sais pas quels sont les vents qui soufflent contre toi aujourd'hui, mais je peux t'assurer une chose, que de toutes les ancres que tu pourrais aller chercher sur cette terre, il n'y en a qu'une seule qui reste et qui demeure encore aujourd'hui. La source de stabilité pour ton âme, pour ton esprit, pour ta vie tout entière. L'ancre que représente la parole de Dieu. Cette ancre qui apporte stabilité et qui apporte paix et espérance pour demain. Voilà ce que nous avions ce matin, une bonne et belle nouvelle pour toi et pour moi. Cette parole de Dieu amène stabilité dans mes émotions et dans ma vie. Pourquoi s'en priver? Seigneur, merci pour la parole du jour, merci pour cette ancre que représente ta parole, cette ancre qui nous stabilise, qui nous apaise, qui permet que malgré la tempête, les vents qui peuvent souffler autour de nous, nous restons stablement attachés à toi. Mais plus encore, Seigneur, cette ancre nous permet d'aller, de pénétrer au-delà du voile, dans la présence et dans l'intimité et dans la puissance de Dieu. Il n'y a pas de puissance sans la parole de Dieu. Il n'y a pas de croissance sans la parole de Dieu. Il n'y a pas d'intimité avec Dieu sans la parole de Dieu. Notre première voie pour accéder à toi, c'est effectivement cette merveilleuse parole que tu places devant nous. Alors je prie que ma sœur ne s'en prive point. Je prie que mon frère ne rate aucune occasion de bénéficier et de profiter de cette parole. Et je prie, Seigneur, que leur vie soit amenée dans un endroit de stabilité, soit amenée dans un état de stabilité parce qu'ayant eu recours à ta parole. J'appelle ta grâce sur leur vie et je les bénis dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. Simplement vous rappeler deux petites choses. Ce soir, on a étude biblique. On reprend la thématique de dimanche. Donc, on a parlé du terrain près du chemin. C'est ce qu'on va continuer à étudier ce soir. Donc, à 19h ce soir. Et puis, les inscriptions pour l'assemblée de dimanche en cours. Donc, il y a une première série d'appels qui va être effectuée cet après-midi avec la sœur Patricia. Appel texto courriel, simplement pour confirmer les premières inscriptions. Donc, ça sera en après-midi. Donc, ne tardez pas à vous inscrire. Comme on sait, plusieurs personnes sont en vacances. Et comme vous avez appris dernièrement, hier encore, la pandémie semble reprendre de la force. Donc, il y a de nouvelles mesures qui vont s'appliquer. Donc, profitons de ce temps que nous avons, où on est un peu plus libre pour nous rassembler. Donc, on vous invite à ne pas tarder à vous inscrire pour qu'on soit tous là pour célébrer Dieu ce dimanche tous ensemble. Sur ce, que Dieu vous bénisse, 19h ce soir, et n'oubliez pas les inscriptions. Au revoir tout le monde.